l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes.
Allô, mon coquelicot préféré, j'espère que tu vas bien, et c'est Vincent. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Bruno Catalan. Alors, bonjour Bruno, comment est-ce que ça va?
Ça va super bien, bonjour à tous.
Et écoute Bruno, premièrement, je voulais dire félicitations pour Nagaraja. Un très très bon jeu, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, l'interaction. Et surtout, bon, c'est très le fun que tu sois de plus en plus... En fait, tu as toujours été présent sur la scène à Cannes ou encore à SN, peu importe. Mais j'ai l'impression que vraiment, il y a comme une appréciation générale de plus en plus envers toi. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que je trouve que tu es une personne vraiment sociable et surtout, tu as quelque chose à dire de profond sur le jeu en général, mais aussi sur la vie.
Ouais, mais là, tu me mets la pression du coup. Non, mais déjà, je suis content que tu apprécies Nagaraja parce que c'est un projet qui me tient bien à cœur. Pour tout un tas de raisons. Déjà, premièrement, parce que c'est un jeu qui est fait à quatre mains avec Théo Rivière. Et que quelque part, on a une génération d'écart, quasiment. Et que pour moi, c'est super de pouvoir travailler avec des auteurs plus jeunes qui m'amènent d'autres envies, d'autres challenges. Donc ça, c'est super cool. C'est aussi un projet qui me tient à cœur parce qu'il est chez Hurricane. J'ai donc un éditeur qui, en fait, m'a donné beaucoup dans mon petit parcours. Puisque, oublions pas que Hurricane, ils ont quand même Yves Menu, le patron, il a quand même monté la société pour publier Mr. Jack. Donc, si tu veux, ça nous fait quand même un parcours commun qui vaut quelque chose, enfin, qui a un poids affectif pour moi, un poids important.
Waouh, je savais pas ça du tout que Hurricane avait fait ça. Ça, c'est waouh.
Ouais. Et enfin, la dernière chose, c'est que je retrouve mon compère Vincent Dutrait au pinceau. Et quand tu parles d'atmosphère, etc., moi, j'aime beaucoup quand les jeux, tout est cohérent entre la mécanique, la thématique, etc. Et c'est clair que l'ambiance qui est créée par les illustrations de Vincent contribue énormément pour moi à ce que tu vis, on est de l'expérience ludique que tu vis quand tu joues à ce jeu-là, quoi.
Oui, définitivement. Puis même Nagaraja, écoute, sur un plan esthétique, mais aussi au niveau des bâtonnets, excuse-moi le terme.
Oui, c'est des dés, en fait. C'est des dés sous forme de bâtonnets. Ouais, ça, c'est un point important pour moi aussi, parce que en fait, on avait besoin de dés à quatre faces pour faire ce qu'on voulait dans ce jeu-là. Et si on s'était arrêté à la facilité, on va dire, on aurait pris les dés en forme de pyramide qu'on utilise en particulier dans le jeu de rôle. Sauf que, d'une part, moi j'ai toujours trouvé que ces dés n'étaient pas forcément faciles à lire pour tout le monde, que ça fait un peu geek, d'une certaine façon. Alors, le mot geek ne me dérange pas, j'en suis moi-même un, je veux dire. Mais je voulais qu'on accède à un public plus large. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en fait, les dés, les premiers dés qui ont été inventés, c'était sous forme de bâtonnets, justement, et c'était des dés de divination, et c'était justement dans cette région en Inde que les premiers dés viennent, si tu veux. Et quelque part, on retombe sur la thématique de ce jeu, et cette petite cohérence entre le matériel et la thématique, même s'il n'y a que moi qui la vois, je m'en fous, en fait, pour moi, c'est important.
Mais justement, d'où est née l'idée, la thématique, le principe derrière le jeu, avec le côté exploration, mais aussi le côté enchère avec les cartes à multiples effets? D'où est-ce que c'est venu, en fait, tout ce concept?
Oula, c'est un long parcours, parce que sur ce jeu-là... On a pas mal cheminé avec Théo. Le jeu, il a commencé à naître d'une envie de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'on savait encore pas quoi, mais c'était l'envie de faire un projet sur lequel on serait associés tous les deux. Donc, on se l'est dit, parce qu'on a l'opportunité de se croiser assez régulièrement sur différents lieux en France, et en particulier, on a aussi cette amitié commune avec Antoine Bozard, donc qui nous amène à nous croiser assez souvent. Et puis, bon, on est reparti chacun chez nous, hein. Théo habite aujourd'hui en Belgique, moi je suis dans l'est de la France, plus près de la Suisse, donc on se voit pas tous les jours quand même. Et on a gardé ça en tâche de fond, et puis à un moment donné, moi j'ai eu une toute première idée, qui était une idée purement mécanique en fait, et c'était des dés qui activaient des effets, etc., etc., et je me suis dit, bon, Théo, c'est un passionné, des cartes, des jeux de cartes à, comment dire, à combo, de genre Magic, etc. Moi aussi. Et là, je me suis dit, mais alors, sur un projet de ce genre-là, c'est sans doute le bon partenaire. Et on a commencé à développer autour de cette idée de base. Au début, il n'y avait que des dés, ensuite on a rajouté des cartes, ensuite c'est devenu des dés et des cartes, enfin, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, chaque itération, on avait un jeu qui fonctionnait, qui marchait, et qui marchait plutôt bien. Et pour autant, ben aujourd'hui, on est dans un paysage ludique où je pense qu'un jeu qui simplement qui fonctionne, c'est loin d'être suffisant. Il faut qu'il y ait un truc en plus, en fait. Et force est de dire qu'on n'avait pas ce truc en plus. Et donc, à chaque fois, on s'est dit, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisant, etc. Jusqu'à ce que vienne l'idée que ces cartes et ces bâtonnets qu'on vous lançait et qui nous déclenchaient des effets, ça soit au service de quelque chose et au service d'une exploration avec la topologie des tuiles qui s'assemblent, qui créent des chemins, etc. Et à partir de là, tout s'est mis en place de façon assez naturelle.
C'est vrai que tout est naturel dans le jeu, on le ressent énormément. Donc toi, j'imagine que toi et Théo, vous êtes entrés en contact via Antoine, mais est-ce que vous connaissiez avant?
Ben, on s'est connus, ouais, enfin, on s'est connus sur les salons parce que, comment dire, Théo, voilà, il traînait déjà, enfin, dès le début où je l'ai vu, on s'est retrouvés tous ensemble. Il y avait Théo, il y avait d'autres jeunes auteurs, il y avait Ludovic Maublanc, Antoine, moi, enfin, etc. Donc, finalement, tu vois, les connexions, elles se sont faites assez facilement. Puis après, ma première expérience réellement professionnelle avec Théo, je l'ai eue, au travers de Kanagawa. Donc Kanagawa, qui est un jeu que j'ai fait avec Charles Chevalier, qui a été publié chez Yello. Et au moment où j'ai présenté le jeu à Yello, en fait, Théo était chef de projet chez Yello. Et donc, il a fait partie des gens qui ont testé le prototype pour la toute première fois quand je me suis déplacé dans les locaux de Yello pour leur présenter le projet. Et d'ailleurs, anecdote intéressante, enfin intéressante pour moi en tout cas, c'est que dans Kanagawa, il y a une sorte de plateau de jeu, comment dire, qui est une sorte de petit tapis en bambou,
Oui.
et qui rajoute une patte au jeu, enfin, qui contribue à la thématique aussi du jeu. Et ce petit tapis, moi j'avais un plateau de jeu normal dans mon prototype, et l'idée de ce petit tapis en bambou, elle vient de Théo quand il était chef de projet chez Yello, parce que lui-même, c'est un fan du Japon, c'est un fan de sushi, et quelque part, c'est les petits tapis avec lesquels tu enroules tes sushis. Et après, on s'est recroisé à nouveau, parce que de Yello, il est passé chez Repoprod pendant un temps, là aussi comme chef de projet. Et du coup, on s'est recroisés professionnellement dans cette période quand, avec Antoine, on travaillait sur Seven Wonders Duel.
Puis là, après ça, de là est venu le contact. C'est sûr que là, tu l'as vu à quelques reprises. Donc là, après ça, est arrivée l'idée de créer un jeu avec lui.
C'est ça.
Puis ce que je trouve intéressant, en fait, quand je compare, mettons, tu sais, on a, mettons, l'école un peu plus allemande des jeux, on a l'école un peu plus américaine. Puis j'ai l'impression que l'école française, il y a comme une espèce de collaboration naturelle qui se crée, qui n'y a pas nécessairement dans les autres écoles. Est-ce que je me trompe en disant ça?
Non, c'est sans doute un peu vrai. Après, il y a deux aspects à la question. Il y a la spécificité francophone, je veux dire francophone plus que française, hein, puisque ben d'abord, le fait de travailler avec des gens qui parlent ta langue, c'est quand même plus simple. Et je dis francophone parce que moi, par exemple, je travaille assez régulièrement avec Sébastien Pochon, qui est suisse. Et puis, je serais tout à fait disposé à travailler avec des Québécois, enfin avec des Belges, enfin peu importe, tu vois, je veux dire, c'est... Mais je pense qu'on partage la même culture pour plein de choses, en fait. Donc voilà. Et donc, cette spécificité francophone de la collaboration, en fait, son origine pour moi, elle est liée à Bruno Fedutti. C'est-à-dire que Bruno, c'est quelqu'un qui a eu un impact, et qui a toujours d'ailleurs un impact hyper fort sur la scène ludique francophone, en particulier parce que c'est quelqu'un qui a joué le rôle de parrain ou qui a ouvert les portes à énormément de personnes, dont moi. C'est-à-dire que, en fait, au début, on ne se connaissait pas, n'empêche qu'il m'a aidé quand même. Et il a créé un événement dont on doit être au moins à la 20e édition cette année, qui s'appelle les Rencontres ludopathiques. Et il a créé cet événement, et c'est sur invitation, mais par contre, il invite tout un tas de personnes qui sont toutes connectées, soit enfin au monde du jeu de société, soit en tant qu'auteur, soit en tant qu'illustrateur, soit en tant qu'éditeur, etc., etc. Et ça a créé ce petit melting pot où chacun rencontre chacun, où les amitiés se nouent et où finalement on se montre des choses, on se donne des coups de main, etc., etc. Et c'est pas un hasard si mes premiers jeux en collaboration, je les ai faits avec Bruno Fedouti, puis Serge Laget, qui lui-même était un grand copain de Bruno, etc., etc. Et ça a créé. Et puis après, c'est ici aussi, à ces rencontres ludopathiques, que j'ai rencontré Ludovic Maublin. Et donc, du coup, en fait, c'est ce fonctionnement par binôme qui peut changer d'un jeu à l'autre, hein, c'est-à-dire que c'est pas toujours le même binôme. Et ben, quelque part, je pense vraiment que c'est Bruno, au travers de ces rencontres ludopathiques, qui a initié ça. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à l'école française, l'école allemande, l'école américaine, on pourrait parler de l'école japonaise aussi, hein, aussi avec le jeu minimaliste et tout ça. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est presque déjà un peu dépassé ou ça va pas tarder à l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a 15 ans en arrière, il y avait les jeux qui étaient faits en Allemagne, les jeux qui étaient faits en France, les jeux qui étaient faits aux États-Unis, avec assez peu de ponts entre les différents endroits. À part des gens très spécialisés qui regardaient un peu ce qui se passe à droite à gauche et ça. Aujourd'hui, en fait, le jeu est en train de se démocratiser à une vitesse hyper importante, ça progresse énormément. Aujourd'hui, on est tous au courant de tout ce qui se passe mondialement, grâce à Internet, etc. Dans les boutiques, les jeux arrivent traduits directement dans ta langue, dans quelle que soit l'origine du jeu, en fait. Et donc, tout ça, toutes ces fameuses écoles sont en train de s'influencer les unes les autres, si tu veux. Et donc, en fin de compte, on arrive à une sorte de mondialisation du jeu. Et ce que je pense, c'est qu'à terme, on parlera plus d'école française, machin truc extra. Ce qui fera la différence d'un jeu à un autre jeu, ça sera la personnalité de son auteur et pas sa nationalité.
Très intéressant, en effet. D'ailleurs, justement, tu parles de Bruno Fedouti, tu parles que lui a introduit ça, mais que là, finalement, cette mondialisation-là va créer de plus en plus d'auteurs qui vont s'identifier davantage à qu'est-ce qu'ils proposent dans leur jeu plutôt que d'où ils viennent. Toi, est-ce que tu as des idées de jeux en partenariat avec des Britanniques ou encore des Américains ou encore peut-être des Allemands?
Oui, oui, ben, j'ai un de mes jeux qui va sortir en mai, je crois, que j'ai fait avec Matthew Dunstan.
Okay.
Donc Matthew, il est Australien, il vit actuellement en Angleterre. Et voilà, on a fait un jeu ensemble, un premier jeu qui sera publié cette année. On travaille sur un autre qui sera, on ne sait pas, peut-être jamais publié. Enfin voilà, mais en tout cas, on a d'autres envies ensemble. Et là, c'est vraiment des histoires. C'est pas une histoire de nationalité, c'est une histoire de connexion, c'est une histoire d'amitié. On s'est rencontrés, on a sympathisé, on s'est dit qu'on aimait bien ce qu'on faisait mutuellement. Puis à un moment donné, quand l'amitié elle se met en place de plus en plus, tu te dis bah tiens, on va faire un truc ensemble. Tu vois. Et actuellement, je travaille aussi avec un auteur italien qui s'appelle Andrea Menini, qui habite à Turin. Turin, l'avantage pour moi, c'est que ça peut être en Italie, c'est à 2 heures de route de chez moi, enfin 2h30. Donc on peut se voir irrégulièrement, certes, mais en fait, on peut quand même se faire des sessions de travail assez facilement. Et voilà, et donc, j'ai fait l'an dernier, là, un jeu qui est sorti, en tout cas, dans certains pays, pas dans tous, qui s'appelle Magic Fold, et je l'ai fait avec un auteur coréen.
Oui, oui, j'ai vu ça passer. Malheureusement, je pense qu'ici au Québec, ça ça l'a pas nécessairement rentré.
Non, mais parce qu'en fait, c'est un éditeur coréen qui cherche des distributeurs, avis aux distributeurs. C'est un super jeu familial. Et voilà, et donc, du coup, voilà, c'est ce jeu que j'ai fait avec un auteur coréen. Donc, à partir de là, tu vois, les nationalités, c'est pas tant un souci, c'est juste des histoires de rencontres et puis d'envie de travailler ensemble.
Puis, est-ce que tu as l'impression que des fois, les maisons d'édition fonctionnent vraiment différemment, justement, dépendamment d'un pays ou d'un autre? Ou encore une fois, c'est vraiment juste une question de connexion, puis ça va bien avec cette maison d'édition-là, donc on repart avec eux un nouveau projet?
Après, tous les éditeurs ont chacun un petit peu leur ligne, on va dire, globalement. Heureusement, d'ailleurs. Donc après, il y en a dont tu peux identifier la ligne, il y en a dont tu peux pas forcément l'identifier clairement. Mais après, d'un pays à l'autre, les gens, ils cherchent à accéder aujourd'hui aux trois mêmes marchés, hein, qui sont le marché du jeu pour enfants, sur lequel moi, je suis pas particulièrement fort, parce que je pense que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui fait triper un enfant de 5 ans, si tu veux. Et comme moi, ça m'amuse pas, en général, voilà, je fais des jeux, en fait, de façon égoïste, je fais des jeux pour moi-même, hein. Et voilà, et le jeu familial, bien entendu, alors après, on peut disserter, où est la limite entre le familial plus, enfin, etc., etc., mais en tout cas, le jeu familial, et puis, évidemment, le jeu expert, là où la fenêtre de tir est plus réduite, parce que des éditeurs qui font du jeu expert, il y en a moins que des gens qui font du jeu familial, mais quel que soit le pays, les éditeurs, ils tentent de se positionner globalement sur ces trois secteurs.
Puis, mais tout ça pour revenir en fait à Hurricane, toi en tant que tel, mis à part Monsieur Jack, qu'est-ce qui fait en sorte que tu retournes à cette maison d'édition-là?
Ah, alors ça, c'est des... Enfin, comment dire? Pourquoi choisir tel éditeur plutôt que tel éditeur? Déjà, là aussi, il y a des éditeurs que je connais, etc. Moi, je connais leur gamme. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, quand je propose un jeu à un éditeur, c'est de tenter de trouver le partenaire qui va donner la meilleure chance à mon projet. Et puis aussi, si jamais j'ai le choix, quelle est la meilleure offre?
Oui, définitivement, là.
Alors en règle générale, j'ai pas forcément le choix parce que déjà quand t'as un éditeur qui te dit oui, t'es déjà ravi, tu vois. Mais si par hasard il y a plusieurs éditeurs qui se déclarent plus ou moins en même temps, alors dans ce cas-là, j'analyse les offres et je vais vers la meilleure offre. L'offre pour moi, c'est pas simplement le pourcentage final qu'on me propose. Une bonne offre, c'est évidemment ça compte, hein, bien évidemment, qu'est-ce que tu vas gagner pour sur chaque boîte, mais c'est aussi dans quel calendrier l'éditeur est capable de prendre en charge ton projet. Parce que imaginons que j'ai un jeu prototype qui est terminé aujourd'hui, et puis j'ai un éditeur qui me dit ça sort dans un an, puis l'autre qui me dit ça sort dans 2 ans, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça,
Ah oui, définitivement.
c'est un paramètre qui rentre en ligne de compte dans ma décision. Et l'autre paramètre qui rentre en compte et qui est essentiel, c'est quelle va être l'exposition de mon projet à l'international. Parce que si je travaille avec un éditeur qui est très fort sur son marché local, mais qui par contre ne sera diffusé que dans très peu de pays externes, si tu veux, enfin à l'international, ben pour moi, forcément, c'est une offre qui va être moins intéressante que quelqu'un qui aura une vraie visibilité à l'international. Et puis après, en plus de tout ça, il y a les affinités personnelles avec tel ou tel éditeur, là, sur le plan simplement humain, d'accord? Et un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est la charte graphique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, un jeu, c'est un tout. Et le look qu'il va avoir à la fin, c'est essentiel pour moi. Parce que de toute façon, l'acte d'achat, il va déjà être déclenché par le fait que le consommateur final ait envie de prendre la boîte dans les mains ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la répartition des rôles, la mécanique du jeu, c'est la responsabilité de l'auteur. On peut discuter, bien évidemment, avec l'éditeur, on va faire des fois des ajustements, etc., etc., mais au final, le final cut, il est pour l'auteur. La thématique, c'est quelque chose qui peut bouger entre le prototype et le jeu final édité, mais elle doit faire l'objet d'un consensus entre l'auteur et l'éditeur. Il n'y en a pas un des deux qui va être prépondérant par rapport à l'autre. Il faut qu'on ait tous les deux envie de travailler sur telle thématique. Et enfin, il reste tout ce qui concerne la réalisation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va faire plutôt des cartes que des machins comme ça, que des tuiles, ou pourquoi est-ce on va travailler avec tel illustrateur plutôt que tel autre illustrateur. Et ça, là, on est dans le domaine de l'édition pure. Donc déjà, il y a des éditeurs à qui je ne présente pas mon travail, non pas parce que j'estime que ce qu'ils font est mauvais, mais tout simplement parce que leur charte graphique, moi, ne vient pas me chercher, elle ne me plaît pas. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, je dis simplement qu'elle ne me plaît pas. À partir de là, comme je sais que je n'aurai pas mon mot à dire à ce niveau-là, je ne présente pas mon travail. Et puis, quand c'est possible, je privilégie de travailler avec des éditeurs qui me laissent un léger input ou un vrai droit de regard. Sur cet aspect charte graphique. Moi, je préfère être partenaire à ce niveau-là que simplement recevoir les fichiers à la fin, puis qu'on me dise, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, tu vois, c'est l'ensemble de tout ça qui me fait prendre la décision vers telle ou telle direction.
Oui, définitivement, parce que tu veux quand même avoir un certain contrôle. Pas un contrôle, mais un...
Je veux être un partenaire.
Oui, c'est ça, exactement.
Typiquement, par exemple, puisqu'on parlait de Nagaraja, si tu veux, pour moi, la charte graphique, elle était claire depuis le départ, depuis le prototype finalisé. Et quand Hurricane m'a fait une proposition, j'ai dit « D'accord, je veux bien travailler avec toi, mais si tu acceptes qu'on travaille avec Vincent.
» Voilà.
Et puis bon, après, Hurricane et Vincent Dutray, ils se connaissaient déjà, etc., etc. Donc, ça a posé... Il a aussi trouvé que c'était une bonne idée. Mais en tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'important.
Oui, définitivement. Parce que la présentation de Nagaraja est très dynamique. On voit déjà, en fait, le thème juste en regardant la boîte, juste en regardant le plateau des joueurs. Tout le côté artistique, je trouve vraiment qu'il est fabuleux. Moi, il est vraiment venu me chercher. Habituellement, je ne suis pas un grand... c'est pas quelque chose qui vient nécessairement me chercher en soi. Mais je trouve que là, Nagaraja, il y a une présentation assez chaude. D'ailleurs, justement, une dernière question par rapport à Nagaraja. L'interaction entre les joueurs, je trouve que... L'interaction fait beaucoup penser à la limite un petit peu à Bruno Feduzzi. Et je trouve que il y a comme de quoi de particulier dans cette interaction-là que j'ai rarement vu dans les jeux que j'ai joués de Bruno Catala. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce jeu-là, tu avais envie d'une interaction un peu plus agressive?
Ah, mais parce que déjà, c'est un jeu à deux. C'est-à-dire que dans un jeu à deux, quelque chose d'agressif comme ça, parce que là, on a clairement des effets pendant les dents. Hein. Mm-hmm. Mais déjà, premièrement, ils sont pondérés par du hasard raisonné. C'est-à-dire qu'en général, quand tu fais quelque chose de puissant, un effet puissant, tu le payes par un handicap d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, c'est acceptable, c'est complètement acceptable dans un jeu à deux. Parce que si c'est pas toi, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? La même agressivité dans un jeu à 3 ou 4, c'est ce que Bruno Feduzzi aurait fait d'ailleurs, lui. Et ça, pour moi, c'est beaucoup moins acceptable. Parce que ce qui va se passer, c'est que t'en as deux ou trois qui vont poutrer un quatrième qui, lui, n'aura aucune chance de toute façon au final, tu vois. Et ça m'amuse pas du tout. Alors que dans un affrontement, quand tu joues aux échecs, par exemple, les échecs, c'est loin d'être un jeu cool, hein, en termes d'agressivité. Il s'agit quand même de tuer l'autre.
Ouais, définitivement.
Bah oui, et donc dans Nagaraja, c'est exactement la même chose. C'est enrobé différemment, etc. Mais en tout cas, on a cette interaction directe. C'est un combat de boxe, c'est du face-à-face, et puis c'est du pendant ta face. Et donc, oui. Et puis, tu vois, dans ce monde ludique aseptisé, dans lequel il est de bon ton d'être toujours maintenant bienveillant, on travaille sur les sentiments, c'est magnifique, etc., etc., moi, ça me fait du bien de faire un jeu aussi où on a le droit d'y aller franco, quoi.
Ouais, c'est ça, d'y aller un petit peu plus dans ta face, comme tu dis.
Exactement, et puis ça plaira pas à tout le monde, mais c'est parfait. J'avais envie, enfin, avec lui, avec, comment dire, Théo, on avait envie de faire ça. Et quelque part, si tu veux, quand tu joues à Magic ou quand tu joues à Keyforge, c'est exactement pareil.
Définitivement.
Oui, et donc, on est dans cette famille de jeux, mais ce coup-ci avec un support différent, quoi.
Ouais, c'est ça, qui n'est pas juste un jeu de cartes, mais qui est aussi un jeu de plateau avec différents éléments, là, surtout différents mécanismes. Parfait. Écoute, là, j'avais des questions, en fait, qui venaient de notre auditoire de l'école du jeu. La première, ce serait, sans oublier le mot « société » dans le jeu de société, qu'est-ce que tu penses des jeux qui sont de plus en plus conçus pour créer un mode solo ou encore qui intègrent des technologies, des applications téléphone, etc., etc., comme par exemple Chronicles of Crimes ou Detective?
Alors, il y a deux questions en fait à l'intérieur. Parce que la question du jeu solo et la question de la technologie, pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Le jeu solo en tant que tel, alors ça c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose que j'observe aussi, et d'un côté ça me désespère d'une certaine façon, parce que jouer seul, je trouve ça un peu triste en fait. Moi personnellement, en général, j'ai pas très envie de, tu vois. Dans Five Tribes, il y a une variante solo qui a été développée d'ailleurs au début par un copain à moi, et j'ai trouvé que c'était malin ce qu'il avait fait, donc Après, j'ai apporté ma pâte, on l'a fini ensemble, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait quelques parties, et forcément, pour caler le truc, et ça marche très bien, mais en dehors du fait que j'ai eu plaisir avec ce copain à caler le truc, depuis, j'y ai jamais rejoué. Parce que moi, j'ai bien envie de jouer à Five Tribes à 2, à 3, à 4, ou même à 5 avec l'extension, mais j'ai pas envie d'y jouer tout seul, quoi. Enfin, tu vois, et pourtant, elle marche très très bien. Donc, ouais, je trouve ça un peu triste d'une certaine façon. Et puis en même temps, eh ben, j'y réfléchis. Et hormis sur certains jeux, si tu veux, où ça peut justifier totalement, j'ai plutôt envie, quand c'est possible, de la faire moi, la version solo, puisque je préfère, dans ce cas-là, l'élaborer moi-même, hein, plutôt que de lire sur Internet une pseudo-variante solo qui a été faite par quelqu'un d'autre et puis qui est finalement est une vraie usine à gaz, quoi. Et donc, du coup, actuellement, on est en train de travailler avec Serge Laget sur une... scoop, attention, scoop, hein, je le dis. Sur une nouvelle version des Chevaliers de la Table Ronde.
Oh, okay.
Ou plutôt sur une évolution des Chevaliers de la Table Ronde. Parce que les Chevaliers, c'est un jeu qui a été précurseur à son époque avec Le Seigneur des Anneaux de Tunisiade pour le jeu coopératif pour grands, si tu veux, pour adultes. Et puis, après, il y a eu énormément de jeux qui sont sortis, et aujourd'hui, force est de dire que notre jeu initial, il a pris un coup de vieux, quand même. Il est resté une référence dans le cœur des gens, parce qu'il a apporté quelque chose à l'époque, mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait, moi, personnellement, je le trouve un peu poussif, enfin, pas au niveau. Et donc, du coup, avec Serge, on a décidé de retravailler là-dessus. Et là, on a une version qui est en discussion actuellement avec notre éditeur. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout validée, hein, mais voilà. Mais on travaille, en tout cas. On ne sait pas s'ils le feront, s'ils ne le feront pas, on verra. Et toujours est-il que les Chevaliers de base, c'était un jeu qui se jouait de 3 à 7. Et aujourd'hui, notre version, on est en train de faire en sorte qu'elle se joue de 1 à 7. Oh. C'est-à-dire que d'ores et déjà, je sais qu'à 2, ça marche très très bien. Alors évidemment, je rassure tout le monde, il n'y a pas de traître à 2 joueurs. Et encore moins à un joueur, parce qu'à moins d'être schizophrène, c'est un peu compliqué.
En effet. Donc, est-ce que ça va être une deuxième édition ou c'est vraiment un reskin, excuse-moi le terme anglophone, là, mais vraiment une remasterisation?
Alors nous, ce dont on a envie, là, je ne sais pas te répondre en ce moment, puisque aujourd'hui, je te dis, on n'a pas l'aval de notre éditeur. Okay. Donc, on lui a présenté le projet à Cannes. Et là, ils sont en train de réfléchir autour de ça. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est un reskin, justement.
OK.
Et c'est là où on n'est pas sûr d'être suivi, si tu veux.
Mm-hmm. Parce que, à cause que le thème colle tellement avec les Chevaliers de la Table Ronde...
Non, mais parce que si tu veux, d'abord, personne ne détient la vérité, déjà. Et puis, simplement, il faut accepter qu'éventuellement, on ait des envies différentes.
Mm-hmm.
Là, à l'instant, je sais pas. Hein, je ne sais pas si on sera suivi ou pas. Mais moi, je suis pas éditeur. Et donc, du coup, l'éditeur lui-même, par rapport à son marché, par rapport à son environnement, par rapport à ses partenaires, distributeurs, etc., etc., il peut avoir des envies différentes des nôtres, ou peut-être que notre envie à nous va pas correspondre à son réseau. Tu vois. Et là, ça, à l'instant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il que sur ce jeu-là. Qu'on reconstruit avec Serge et sur lequel je m'éclate à fond en fait en ce moment, eh ben on pourra jouer très probablement à la fin de 1 à 7. Et le mode solo, même si quelque part j'y rechigne, eh ben je préfère qu'on le fasse nous plutôt à nouveau que de lire sur Internet une variante lambda, quoi.
Ouais, exactement, là, tout à fait.
Et sur la technologie, moi j'aime bien quand la technologie elle n'est pas un simple artifice. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est une technologie gadget, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si c'est une technologie qui apporte quelque chose que je n'aurais pas pu faire en tant que joueur sans ça, alors je trouve que c'est vraiment super. Et je pense que justement, dans Détective, par exemple, d'Ignacy, je trouve que c'est parfaitement justifié, je trouve ça très bien. Pour Unlock, j'imagine pas jouer à Unlock sans l'application. Et donc, dans ce cas-là, si ça apporte cette aide-là, ben, ma foi, tant mieux. Et pourquoi pas. Mais tu vois, c'est quelque chose de complètement différent du mode solo. Moi, aujourd'hui, j'ai rien développé dans ce sens-là, parce que là, pour développer ça, il faut avoir aussi des compétences en informatique pour pouvoir valider ce que tu es en train de faire. Et moi, j'ai pas ce niveau-là, quoi.
Ouais, définitivement. Ça prend un autre pan professionnel, là. Autre question, est-ce que tu t'interdis parfois certains types de jeux ou des thèmes, comme par exemple des dungeon crawlers, jeux à campagne, ou même des thèmes un peu plus violents, horreur ou...
Non, alors je m'interdis rien. C'est-à-dire que je ne fonctionne que par envie. Au niveau des thèmes, etc., ou des styles de jeu, j'ai pas de tabou. Par contre, voilà, je vais là où vraiment j'ai envie. Moi, je pense qu'un auteur, c'est quelqu'un qui trace sa voie. Et donc, à un moment donné, qui essaye d'emmener les autres derrière lui. Donc, à partir de là, en fonction de la voie que j'ai envie de mener, bah, je vais tenter d'amener les autres derrière moi. Puis demain, ça sera peut-être un dungeon crawler, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai jamais fait de jeu de zombies, mais peut-être qu'après-demain, il y aura un jeu de zombies. Enfin, voilà. Et puis, la violence dans les jeux ne me dérange pas, au contraire. Et là où je suis moins facile, là où je vais pas beaucoup, c'est, je ne l'interdis pas, mais c'est le jeu pour enfants, parce que, à nouveau, j'ai moins de facilité à ce niveau-là. Et puis, même si j'en ai fait déjà deux, et puis que j'en ai deux qui vont sortir dans les prochains mois, c'est le jeu coopératif. Parce que c'est moins ma tasse de thé, a priori, sauf quand j'ai une envie particulière.
Mmh. Tout à fait. T'as fait beaucoup plus des jeux familiaux accessibles depuis un certain temps. Est-ce que t'es en concept... ben, t'as un petit peu répondu à ça en même temps, mais es-tu en concept un peu d'un jeu plus costaud à la Yamatai ou Five Tribes présentement?
Ben, j'en ai un qui sort en fin d'année chez Yellow et qui aujourd'hui, il y a eu une ou deux photos sous le nom de Akkad, mais je pense que ça s'appellera pas comme ça à la fin. On est en train de chercher encore le nom du jeu, si tu veux. Et c'est un jeu qui est... en termes de profondeur, en termes de durée de jeu, en termes d'immersion, enfin de sollicitation intellectuelle, on va dire, c'est un jeu qu'on pourrait comparer à Five Tribes ou Yamatai. Et d'une certaine façon, si je veux faire un parallèle, dans Five Tribes, je me suis autorisé à revisiter les mécaniques de base de la Wheelie pour construire quelque chose de complètement différent. Et quelque part, dans celui-là, dans Akkad, donc, ça va plus se rapprocher d'une expérience ludique qui se rapprocherait du Go, en fait. C'est-à-dire que tu poses des choses sur un plateau, individuellement, elles ne font pas beaucoup d'effets, mais au bout d'un moment donné, ah ben zut, il y a une zone, et d'un seul coup, cette zone-là, elle est super importante, etc.
Wow, ok. C'est très vendeur.
J'étais bien là, non?
Oui, c'est ça, oui, définitivement.
Et tout ça sans images, hein? c'est magnifique.
Ben, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as des réflexions par rapport à une extension quelconque pour Yamatai?
Alors non, je pense qu'il n'y en aura pas. Non pas que ce ne soit pas possible d'en faire une, mais ben là, c'est l'avantage et l'inconvénient de travailler avec un gros éditeur. Enfin, voilà. Quand tu travailles avec un éditeur qui a justement une vraie surface internationale, le gros avantage, c'est que tu as un premier tirage qui est conséquent. L'inconvénient, c'est que pour maintenir le niveau de prix, il faut retirer la même quantité. Et si ta première quantité s'est vendue bien, mais pas dans un temps suffisamment court, alors l'éditeur préfère ne pas retirer plutôt que d'avoir 2 ans de stock devant lui.
Okay.
Donc, si tu veux, si j'avais fait Yamatai chez un plus petit éditeur, on aurait refait plusieurs tirages, c'est évident. Chez un gros éditeur, on a vendu le premier tirage qui était au-delà de 15 000, je pense. Et puis, après, ils n'ont pas pris le risque de refaire deuxième. Et donc, à partir de là, tu fais pas d'extension.
Ouais, je comprends. Et dernière question qui nous vient d'un Québécois qui t'a manqué malheureusement l'an passé quand t'es allé au pub La Revanche dans la ville de Québec. Et il se demandait quand est-ce que tu reviens au Québec?
À l'instant, je ne sais pas. Je ne reviens pas cette année déjà, ça c'est clair. Parce que les jeux au bout, c'est bientôt. Hein.
Ouais, c'est ça.
Mais j'y serai pas cette année. Et puis, je sais pas. Écoute, il n'y a rien de planifié. De toute façon, j'aurai très certainement des opportunités. Et c'est très clair que j'y reviendrai. Parce que j'ai toujours, et là, sans caresser dans le sens du poil, c'est vraiment vrai. je me suis toujours senti tellement bien accueilli. Enfin, et que voilà, ça peut que donner envie de revenir, en fait.
Ah, t'es tellement fin.
Non, mais c'est vrai, je t'assure, hein, c'est que ce soit, enfin, peu importe, hein, que c'était à Montréal ou avec, avec toute l'équipe de d'Ilo 307 ou à La Revanche ou Randolph, enfin, ou Colonel Moutarde, enfin, partout, de toute façon, partout, ça a toujours été que du fun, quoi. Et moi, j'adore ça, quoi. Ou Valet de cœur aussi, enfin, tu vois, c'est...
On est très accueillants et on aime bien accueillir les gens d'ailleurs.
Eh bien, c'est bien apprécié, je peux te dire.
Alors, nous sommes maintenant à la deuxième partie de cette entrevue, mais on va pas tout à fait faire une entrevue. En fait, c'est une discussion que je veux avoir avec toi, Bruno, autour d'un sujet donné.
Mm-hmm.
Et le sujet d'aujourd'hui que je voulais qu'on aborde, c'est quelle est la véritable valeur d'un prix qu'un jeu de société reçoit? Quelle est la valeur du Golden Geek ou encore de l'As d'Or ou du Spiel des CRS? Comment est-ce qu'on devrait voir ça en tant que joueur, mais aussi juste en général pour le grand public?
Alors, en tant que joueur, je sais pas. Moi, je peux te répondre en tant qu'auteur. Déjà.
Oui, définitivement.
Pour moi, il y a deux. Enfin, la valeur, il y a deux aspects qui sont complètement dissociés pour moi. Pour moi, déjà, premièrement, ça a une valeur de reconnaissance. C'est-à-dire que quelque part, quand tu gagnes un prix, c'est une reconnaissance du travail que tu as fait. Et que ce prix soit l'As d'Or, ou que ce soit le Spiel, que ce soit le Golden Geek, ou que ce soit tout un tas d'autres prix qui existent aujourd'hui, hein, il y en a, il se passe pas une semaine sans qu'il y en ait un nouveau d'ailleurs. De toute façon, voilà, c'est toujours très satisfaisant pour un auteur de voir son jeu mis en avant parce que, ben voilà, ça veut dire que t'as bien bossé, ça veut dire que ce jeu-là, il a touché des gens, et puis, ben, moi, je fais ça pour ça aussi, hein, je fais ça pour tenter d'offrir du plaisir, en fait, à des gens. Donc là, ça me permet de mesurer, si tu veux, un bout du travail accompli. Donc ça, c'est important. Donc ça, pour moi, cette valeur affective, finalement, elle est assez essentielle pour moi en tant qu'auteur. Donc je suis jamais blasé quand je reçois un prix, parce que des fois, on m'a posé cette question. T'en as pas marre de gagner des trucs, etc. Ben non, j'en ai pas marre du tout, en fait.
Et... C'est une autre question à poser, ça, hein, de demander ça à un auteur.
Là, ah, mais c'est des fois, il y a des fois qu'il y a des gens qui me l'ont posé avec un petit peu de perfidie aussi, tu vois.
Ah, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Parce que des fois, il y a des jalousies aussi, forcément.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais voilà, mais moi, je suis jamais blasé, vraiment pas. Et voilà. Et après, t'as l'autre valeur qui est une valeur qui, là, on va rentrer dans le détail des sous, c'est une valeur commerciale.
Oui, définitivement.
Voilà. Et ces différents prix ont, les trois que tu as cités, que ce soit le Spiel, l'As d'Or ou le Golden Geek, ils ont tous, en fait, une valeur commerciale. Je pense, sans me tromper, que celui qui a la valeur commerciale la plus importante, c'est définitivement le Spiel, aujourd'hui. Mmh.
Définitivement, oui, oui.
Il faut savoir que le Spiel des Jahres, donc le prix allemand, mais qui quelque part est l'équivalent des Oscars au cinéma, c'est-à-dire que c'est devenu un peu le prix international quand même, d'une certaine façon. Ce Spiel, en fait, dans l'année où le jeu gagne le prix, au minimum, il va se vendre au moins à 300 000, entre 300 et 400 000 exemplaires.
Ouais, au minimum. Là,
oui, c'est donc fou, là, on parle quand même de chiffres qui sont simplement monstrueux.
Ouais, puis en plus, l'autre chose, c'est que c'est à travers le temps là, que ça...
Oui, oui. Alors après, t'as des Spiels qui vont s'installer plus durablement que d'autres. Hein. Je veux dire, ça va dépendre du jeu, ça va dépendre de comment l'éditeur le travaille, etc., etc. Mais à titre d'exemple, parce que moi, je peux te parler que de ce que je connais, j'ai eu la chance et l'honneur de gagner le Spiel il y a maintenant 2 ans, enfin bientôt 2 ans, et lors de mes derniers relevés que j'ai eu de King Domino, on en était à 750 000 exemplaires.
Waouh. Ok.
Donc si tu veux, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Et ça, c'est lié, j'espère, un peu à la qualité du jeu, mais c'est lié aussi à son exposition médiatique au travers de ce prix-là qu'il a gagné. Si on regarde le prix du Golden Geek, si tu veux, je pense très franchement que ce prix, il a aussi un impact au niveau des ventes. Par contre, je ne suis pas capable de le mesurer. Je suis pas capable de le mesurer parce que ça va affecter essentiellement les ventes aux États-Unis, si tu veux. Et là, pour moi, c'est pas des chiffres auxquels j'accède facilement. Et j'ai du mal à savoir si l'impact c'est 10%, 20%, 30%, enfin, mais c'est sans doute quelque chose de cet ordre-là, mais je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas le mesurer. En tout cas, à nouveau, ça te donne une exposition, comment dire, sur les réseaux sociaux des geeks, en tout cas, qui est réellement existante et importante. Donc, moi, c'est pareil, hein, les Golden Geeks, j'ai quelques médailles là à la maison. À chaque fois que si on doit m'en donner d'autres, je les accepterai avec grand plaisir. Et puis, il y a l'As d'Or. Et l'As d'Or, donc, c'est le prix français, hein, c'est le prix du jeu de l'année en France. Et en fait, c'est un prix qui est en constante évolution et qui a un impact plus important encore chaque année. Il y a 10 ans, il était de bon ton, chez certains éditeurs un peu dénigrants, de dire que de toute façon, l'As d'Or, on s'en fout parce que ça n'a aucun poids. Aujourd'hui, plus personne ne dit ça. Et clairement, là aussi, le jeu qui gagne l'As d'Or va voir ses ventes augmenter, alors pas du tout, du tout, du tout dans les proportions du Spiel, hein, mais très probablement que ça a un effet de peut-être 20 ou 30% supérieur à comment dire, d'augmentation des ventes par rapport à ce que le jeu aurait été sans ça. C'est des chiffres que je donne sans avoir réellement de valeur, mais c'est ce que je flaire, entre guillemets.
Ouais, ben écoute, si je peux surfer un peu sur ce que tu dis. Moi, écoute, quand on s'est rencontrés au JAB l'année passée, puis qu'on a fait quelques parties de domaine, puis que là, après ça, tout le monde avait eu un espèce d'engouement autour du jeu, moi, j'avais décidé de faire un mois après une vidéo sur The Mind. Et je te dirais, j'ai pas eu beaucoup de vues, de visionnement de cette vidéo-là en question. Et tranquillement, quand les prix, les nominés de SN sont sortis, eh bien là, tranquillement, les vues ont commencé à s'augmenter. Et c'est drôle parce que il y a 2 semaines, je pense qu'il y a 2 semaines, Cannes, si je ne me trompe pas.
Ouais, 3 semaines, ouais, mais
Ouais.
bon, peu
Ben,
importe.
c'est ça.
Ouais.
Mais on voit vraiment, si on regarde les statistiques de l'école du jeu, le nombre de visionnements qui ont. Écoute, ça a pété le plafond, là, les views juste de ma vidéo de domaine. Je pourrais dire la même chose pour Quacksalber.
Ouais, bah oui. Et tu vois, la vraie valeur d'un prix, quel qu'il soit, c'est l'exposition qu'il te donne. Et aujourd'hui, dans un marché qui est pléthorique, où il y a une offre qui est tellement large, etc., etc., que faire connaître ton jeu, ça devient une vraie gageure, et bien gagner un prix, ça te permet d'avoir de la visibilité.
Puis encore là, moi, ce que je me demande, c'est que souvent, et c'est ça que j'explique un petit peu dans ma critique de Quacksalber, il y a eu beaucoup de critiques par rapport justement au Kennerspiel de cette année, exprimant un peu le mécontentement, que c'est pas vraiment des jeux qui sont considérés comme experts. Et là, il y avait des gens qui parlaient, bon, des jeux de Vital Lacerda, ou encore des grosses pièces de viande qui sont sorties en 2018, 2017, pardon. Et pourtant, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'offrir un jeu qui est accessible à tous, mais de stratégie.
Surtout, en fait, à un moment donné, déjà, premièrement, il faut bien se rappeler un truc, c'est qu'un jury, il est souverain. Le résultat qu'il donne à la fin, ça n'a pas valeur de vérité. Peu importe que tu gagnes ou que tu gagnes pas, peu importe que le jeu qui soit mis en avant te plaise ou te plaise pas, on n'est pas en train de te dire c'est le meilleur jeu du monde, on est en train de te dire c'est le jeu que nous, jury, on a envie de mettre en avant cette année. Et donc, à partir de là, un jury fait ce qu'il veut. Et on n'a même pas à le commenter d'une certaine façon. Et complémentairement en ce qui concerne le Spiel, il suffit d'aller regarder comment dire, les statuts du Spiel pour savoir qu'est-ce que sont les catégories et qu'est-ce qu'ils ont décidé de rentrer dans chaque catégorie. Et on ne devrait pas être surpris que le Kenner Spiel soit pas un jeu qui soit Kenner plus plus plus, parce que ça n'a jamais été la mission que s'est défini le Spiel lui-même. Donc à partir de là, on peut jouer les surpris, mais en fait, on n'a pas à l'être.
Pas du tout. Puis de toute façon, comme tu dis, le jury est souverain, mais aussi J'ai l'impression aussi que des fois, puis dis-moi si je me trompe, mais on dirait qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une conspiration derrière les prix qui sont donnés.
Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont persuadés de ça. Après, qu'est-ce que tu veux ? On est aussi dans une société aujourd'hui de conspirationnistes, globalement. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, etc., etc. Enfin, tu vois, quand tu vois le nombre de personnes qui pensent encore que la Terre est plate, c'est pas surprenant de retrouver des choses un peu aberrantes au niveau des jeux de société. Mais la plupart du temps, ces idées-là, elles sont issues, elles émanent de personnes qui sont très loin du monde ludique, enfin, et qui ont aucune idée de comment ça se passe vraiment, si tu veux. Et pour voir ça de l'intérieur, et puis pour connaître certains membres de jury, etc., etc., si tu veux, et pour avoir longuement discuté avec pas mal, je peux te garantir que c'est pas leur préoccupation. Mais vraiment pas. Et moi-même, sans être conspirationniste, si tu veux, je pouvais avoir parfois des a priori. Par exemple, j'étais persuadé pendant longtemps, et c'était quelque chose qui avait pas mal diffusé du côté francophone, que le Spiel ne pouvait pas être gagné par un éditeur qui ne faisait pas fabriquer son jeu en Allemagne. Et ben, King Domino a gagné, il est fabriqué en Chine. Et il s'avère que j'ai pu discuter, quand je suis allé à Berlin, avec certains membres du jury, etc., après, si tu veux, et ils m'ont dit, mais en fait, nous, tout ça, tout ce que tu dis, on s'en fout. C'est pas notre propos. Qui a fait le jeu ? Quel est l'auteur ? Est-ce qu'il a déjà gagné ? Est-ce qu'il n'a pas déjà gagné ? Est-ce que par rapport à l'ensemble de sa carrière, il le mériterait ou pas ? Est-ce que l'éditeur, son éditeur a déjà gagné ou pas encore ? Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des critères ? Et d'ailleurs, tu le vois bien, cette année, il y a un auteur qui est sorti du bois dont on n'avait jamais entendu parler avant, c'est Wolfgang Warch. Il avait quand même 3 jeux nommé, eh ben, si les jurys se posaient ce genre de questions, ils n'auraient pas nommé les 3. Donc, il n'y a aucune conspiration, il n'y a aucun favoritisme. Les gens, ils font avec sincérité, ceux qui sont membres d'un jury, ils font avec une vraie sincérité ce qu'ils pensent nécessaire de faire, sans se poser plus de questions, et simplement en essayant avec leur cœur de mettre en avant le jeu qui leur semble le plus adapté à la mission qu'ils se sont donnée.
Puis de toute façon, dans tous les cas, ça reflète pas nécessairement, comment est-ce que je peux dire, l'opinion générale ou quoi que ce soit. Le but, c'est pas de faire ça, là.
Non, puis dans un prix, il y a une dimension politique. Mais pas au sens politicien, au sens noble de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, jury, j'ai envie de montrer au monde entier que ça, c'est ça qu'il faut regarder. À un moment donné, c'est une décision politique, quelque part. Et justement, on peut tout à fait en parler vis-à-vis de The Mind qui vient de gagner l'As d'Or, si tu veux. Effectivement, il y a des gens qui vont rester à côté de ce jeu, qui vont pas comprendre, etc., etc. Il y en a même que ça va pouvoir fâcher, peut-être. Mais on s'en fout. Le jury a pris une décision en disant « Regardez ce qu'on peut faire avec simplement un paquet de 100 cartes. » Et où on se parle pas, où il se passe des choses incroyables en termes d'expérience ludique. Et ben voilà, c'est une décision, et cette décision-là, elle va convaincre certains plus que d'autres, mais elle est tout à fait noble, elle est tout à fait digne d'intérêt, elle est respectable.
Puis quand tu regardes, les autres qui étaient nommés, souvent, moi j'ai eu des discussions autour de, The Mind a gagné l'As d'Or, mais pourtant l'île au trésor est tellement meilleure.
Ouais, mais alors moi, attends, l'île au trésor, je peux t'en parler très bien, parce que l'auteur de l'île au trésor, c'est Marc Paquien. Marc Paquien, c'est mon co-auteur de Yamatai, et on habite à 30 bornes l'un de l'autre, donc on se voit très régulièrement. Donc l'île au trésor, je connais l'île au trésor depuis la toute première idée initiale. Donc tu penses bien que j'aurais bien aimé que Marc gagne, parce que c'est mon pote, et puis parce que ça m'aurait fait plaisir, etc. Donc entre moi, j'étais très partagé, parce que d'un côté, effectivement, j'avais envie que ce soit Marc, et donc l'île au trésor, et d'un autre côté, si moi j'avais été membre du jury, malgré le fait que ça soit un jeu de mon pote, j'aurais voté The Mind. Parce que en dehors du fait du côté incroyable qui peut se passer avec ce jeu, ce qui est tout aussi vrai d'ailleurs avec l'île au trésor, il y a un côté assez incroyable dans le jeu, si je dois, ce soir, faire une partie avec mes parents, avec des gens qui connaissent pas grand-chose aux jeux de société, lequel des jeux je vais avoir le plus de facilité à mettre en place ?
Définitivement The Mind.
Définitivement The Mind. Les 3 autres, hein, Solenia, super jeu, d'ailleurs, bravo à Sébastien Dujardin, il a fait un travail exceptionnel sur ce jeu-là aussi, enfin toi. Shadow Amsterdam, j'ai pas d'avis, j'ai pas joué. Et puis, mais je fais confiance au jury. Et puis, L'île au trésor, mais ces trois jeux-là, ils sont beaucoup plus longs, complexes à mettre en œuvre. Moi, je pense vraiment, d'ailleurs, que L'île au trésor aurait gagné à être un tout petit peu plus simplifié au niveau des règles pour aller chercher plus du côté famille que du côté gamer. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, définitivement.
Mais en tout cas, c'est un jeu génial et puis qui a complètement sa place. Et puis, je trouve que c'est une super mise en avant déjà de faire partie de la liste, tu vois?
Oui, exactement. Puis, je pense qu'à la limite, de se fier seulement à ces prix-là, c'est pas tout à fait juste, dans le sens où est-ce que je pense qu'il faut aussi aller avec soit des auteurs qu'on apprécie, ou encore, bon, c'est pas pour faire la promotion des médias ludiques, mais souvent, bon, écoute, tu vas peut-être avoir des goûts similaires avec un YouTuber davantage qu'un autre, puis peut-être c'est davantage... Il y a un avantage à écouter cette personne-là en question avec qui tu as des goûts en commun, plus que de voir qu'est-ce qui a gagné un prix ou quoi que ce soit, là.
Oui, bien sûr. Hein. Et puis nous, en tant que professionnels, entre guillemets, du monde du jeu, je pense que quelle que soit la décision, en fait, il faut être très zen par rapport à ça. Et quand ça te sourit, il faut prendre les choses avec joie et reconnaissance. Et puis quand ça sourit aux autres, ben, tu as aussi le droit de les féliciter et puis de porter le... enfin, comment dire, de contribuer à porter leur jeu aussi, quoi.
Oui, t'as pas... il faut absolument faire ça parce que justement...
Ben parce qu'on y sera tous, on y sera tous gagnants à la fin. Et créer des fausses polémiques par frustration, par etc., ça sert strictement à rien.
Oui, tout à fait. Puis, ça sert... puis de toute façon, c'est qu'en tant que tel... On est tellement, le jeu de société est tellement un petit environnement, c'est hermétique,
ouais.
À un point tel qu'il faut faire attention justement, tu sais, faut s'entraider, puis le but du jeu de société en général, c'est de créer cette espèce d'ambiance sociale-là, et si on l'omet de façon un peu méta, ben je pense qu'on perd de vue, le but du jeu de société.
C'est ça.
Mais tu sais, comme tu vois, moi, même moi, j'aurais aimé que L'île au trésor gagne, parce que moi, ça a été mon numéro 1 de 2018. J'ai adoré ce jeu-là. Puis tu vois, moi, mon oncle qui est arrivé, puis qui a joué à ce jeu-là, puis le dernier jeu qu'il avait joué, c'était dans les années 80, puis c'était Risk, tu sais. Quand tu l'installes sur la table, puis que ça réussit à faire ça, ou même, encore une fois, je t'en avais parlé de façon personnelle, mais grâce à Scarabia, ben mon beau-frère commençait à jouer avec ma nièce, puis là, il tripe jeu de société, il s'amuse. Pourquoi est-ce que ce jeu-là a pas gagné, tu sais, plutôt qu'un autre?
Ben voilà, mais de toute façon... Tu sais, reprends la liste de Cannes. En face, donc si on prend les jeux un par un, aucun d'entre eux n'est illégitime dans la liste. Ils sont tous totalement légitimes. Et pour autant, tu peux supprimer chacun d'entre eux et le remplacer par un autre jeu qui serait tout aussi légitime.
Oui, exactement.
Par exemple, tu supprimes The Mind et puis tu mets Welcome To. Tu supprimes L'île au trésor et puis tu mets Ganymede, etc., etc. Tu supprimes Shadow Amsterdam et puis on va être immodeste, tu mets Scarabia. Et donc, à partir de là, de toute façon, enfin, quand tu es jury et quand tu vois la qualité de la production annuelle et que tu dois en sélectionner trois, eh ben forcément, tu vas faire des déçus.
Oui, puis l'année 2018 a tellement été une année extraordinaire dans le niveau du jeu de société, là, c'est fou.
Alors moi, je pense qu'il y a eu des années avant qui ont été beaucoup plus fortes que ça. Parce que là, c'est justement, sur ce plan-là, 2018, je pense pas que ça a été le cru le plus phénoménal. Mais malgré tout, tu as quand même un panel de jeux qui auraient tous mérité d'être là, puis il faut en choisir trois. Donc à un moment donné, ben, en ton âme et conscience, tu choisis trois par rapport aux critères qui sont les tiens, enfin qui sont ceux du jury. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis de toute façon, tous les jeux, comme encore une fois, tous les jeux qui ont été nommés, ils sont totalement légitimes. Et donc il faut les saluer, il faut les encourager, il faut féliciter le vainqueur, et il faut se réjouir de la qualité de la production globale.
Puis, tu sais, souvent, c'est niaiseux, mais c'est aussi la question de connaissance ludique des jurys. Le jury n'a pas connaissance de tous les jeux qui sont sortis pendant l'année 2018. Et souvent, on va y aller vers des jeux qui sont un peu plus... pas connus, mais qui ont été davantage mis de l'avant, tu sais. Alors que, mettons, il y a des jeux que moi, j'ai capoté en 2018... des jeux coopératifs comme Dawn of Peacemakers qui a passé complètement en dessous du radar. Et pourtant, moi, j'ai adoré ce jeu-là. C'est un jeu que je pense que tout le monde devrait essayer. Mais ça n'a pas été un jeu qui a brillé dans les médias. Et pourtant, il aurait pu être là, selon moi. Écoute, merci beaucoup, Bruno, pour cette entrevue, pour cette discussion. J'espère que tu as apprécié. Et surtout, est-ce qu'il y a une manière, en fait, qu'on puisse te suivre via les médias sociaux ou quoi que ce soit?
Bah, j'ai une page Facebook sous le nom de Bruno Catala Off, pour officiel, puisque, en fait, sur ma page personnelle, en fait, j'ai atteint la limite du nombre d'amis, entre guillemets. Donc voilà, et puis j'ai un site internet, brunocatala.com, voilà. Mais si tu vas sur Bruno Catala Off, et puis il y a des gens qui m'écrivent régulièrement là-dessus, je réponds toujours, de toute façon.
Parfait, génial. Puis, ben merci beaucoup encore une fois, Bruno.
Ben de rien, avec plaisir.
N'oubliez pas d'aller liker la page de Bruno Catala, liker notre page Facebook de l'École du jeu, vous abonner à notre Instagram, s'abonner à l'Instagram de Bruno, vous abonner à notre chaîne aussi. Et sur ce, je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.
Merci. 1, 2...